Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la rubrique des 4e Madrid, l'émission des élèves de 4e Madrid du Collège Aristide Briand de Chaulnes. Dans le cadre d'un atelier réalisé avec Radio Campus Amiens, nous nous sommes mis par groupe de 4 à 6 élèves afin de réaliser des interviews sur des thèmes choisis par nous-mêmes. Chaque groupe d'élèves avait un thème différent. Dans un premier temps, Lali, Calvin, Alexis et Juliette ont choisi de parler d'écologie. Ils sont allés à la rencontre de Monsieur Frers, leur professeur de sciences de la vie et de la terre, afin d'en apprendre plus sur le réchauffement climatique à Chaulnes.
Quelles sont les conséquences de la déforestation à Chaulnes dans la Somme ?
Alors, les conséquences de la déforestation, ce sont les mêmes sur toute la planète. Dès que tu enlèves des arbres, tu vas enlever un milieu de vie pour des êtres vivants. Donc, ça peut toucher à la biodiversité. Ensuite, moins il y a d'arbres, moins il y a de dioxyde de carbone sous forme solide. Et donc, en fait, ça participe aussi au réchauffement climatique. Mais ça s'applique pour toutes les déforestations dans le monde.
Quand et comment est apparue la déforestation ?
Alors, la déforestation, on ne va pas avoir de date, en fait. Si tu veux, les premiers arbres qui disparaissent, ça arrive en même temps que les premiers arbres apparaissent, tu vois. Donc voilà, déjà. Ensuite, pourquoi est-ce que des arbres disparaissent ? Tu as plusieurs explications. Les arbres peuvent disparaître à cause de maladies. Les arbres peuvent disparaître à cause d'un changement de climat. Les arbres peuvent disparaître à cause de l'homme, actuellement, parce que nous intervenons. À partir du moment où l'homme a été sur la planète, il a commencé à pouvoir, à partir de certaines périodes, il a pu commencer à couper des arbres pour faire plein de choses avec. Donc, ça a commencé à ce moment-là. On parle de la déforestation humaine. Mais il y avait déjà eu des disparitions de forêts bien avant l'apparition de l'homme.
Dans quelques années, les saisons seront-elles inversées ?
Inverser les saisons, tu ne peux pas inverser les saisons, en fait. Si tu veux inverser les saisons, il faudrait que tu inverses tout simplement tous les mouvements de la Terre autour du Soleil. Et ça, l'homme n'influence pas tous les mouvements autour du Soleil, tout simplement. Donc non, par contre, il peut faire beaucoup plus chaud, il peut faire beaucoup plus froid. Les saisons peuvent être modifiées, mais... À partir du moment où la Terre est ronde et penchée, il y aura toujours des saisons, quoi.
Le réchauffement climatique vient-il réellement de la pollution ? Va-t-il augmenter pendant les prochaines années ?
Quand tu dis le réchauffement climatique, je pense que tu veux dire le réchauffement climatique actuel. Donc le réchauffement climatique actuel, oui, est réellement dû à l'homme, à l'action de l'homme. Est-ce que ça va continuer comme ça ? De manière globale sur la planète Terre, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on est certain que la planète va augmenter d'à peu près 1,5 degré au minimum, voire même 2. Plein de scientifiques pensent que ça va augmenter davantage. Et si l'homme, du jour au lendemain, commence à agir correctement, se met à mieux gérer, réguler tout ce qu'on appelle émissions à gaz à effet de serre, eh bien, dans ce cas-là, il y aura quand même une augmentation d'au moins 1,5, voire 2 degrés, et on aura bloqué là. Et si on ne fait pas bien, ça va augmenter davantage.
Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?
Alors, en fait, là, ça va dépendre de où tu vas te placer sur la planète, d'accord ? Donc, les conséquences du réchauffement climatique, elles vont dépendre de là où tu vis. Si tu vis sur une île, il y a des chances que ton île disparaisse, si elle n'est pas trop en hauteur. D'accord ? Si tu vis au pôle nord, au pôle sud, la glace va fondre. D'accord ? Après, si tu vis en France, les conséquences du réchauffement climatique, elles peuvent être variées. On peut même imaginer qu'il se mette à faire très très froid en France à cause du réchauffement climatique, qui pourrait être la cause de la disparition du Gulf Stream, un courant chaud qui nous permet d'avoir des températures assez agréables quand on compare par exemple au Canada. Donc les conséquences, elles peuvent être vraiment variées et toucher à tous les êtres vivants, mais de manière différente en fonction de là où tu habites.
Quelle est la cause principale de la disparition des espèces animales ?
Alors là, je suis obligé de préciser, tu veux dire la disparition des animaux actuellement ici ? Alors en fait, il y a plusieurs explications, mais malheureusement, c'est toujours le même coupable, hein, c'est l'homme. Donc soit tu fais disparaître les animaux en coupant leur milieu de vie. Par exemple, si tu construis des autoroutes en plein milieu de forêt, ça peut poser des problèmes aux animaux. En faisant plein de constructions à droite et à gauche, ce qui peut empêcher des passages d'êtres vivants, d'animaux pour la reproduction et autres. Tu peux aussi tout simplement par déforestation, en enlevant des forêts, faire disparaître aussi plein d'êtres vivants. Et puis tu as aussi ça par le réchauffement climatique. S'il fait plus chaud ou plus froid, eh bien les êtres vivants ne vont pas pouvoir rester et vivre à cet endroit-là. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux expliquer beaucoup de disparitions. Après, je rajoute aussi, tiens, parce que j'allais oublier, sinon, tu as la chasse aussi. T'as la chasse, soit pour te nourrir. À une époque, ils ont chassé les bisons pour pouvoir les manger. Aux États-Unis, ils ont disparu. T'as les dodos sur l'île Maurice. Tu peux expliquer aussi ça comme ça, à cause de la chasse aussi.
D'après vous, y a-t-il une conséquence à la disparition des espèces animales ?
Alors, tu veux connaître les conséquences de la disparition des animaux, c'est ça ? Qu'est-ce que ça peut poser comme problème ? Tu peux considérer que la nature est jolie et que faire disparaître des êtres vivants, ça t'enlève un peu la beauté du monde. Ça peut être déjà un premier argument. Après, si tu es un peu plus pragmatique, tu peux peut-être imaginer que faire disparaître des êtres vivants, comme tous les êtres vivants sont reliés les uns aux autres, il y a des chaînes alimentaires, il y a des interactions, et bien faire disparaître certains êtres vivants vont entraîner la disparition d'autres êtres vivants. Et ce qui fait que on fait chuter la biodiversité. Et cette biodiversité, elle peut être vraiment importante pour l'humain, pour le coup, parce que peut-être qu'on va faire disparaître des plantes qui auraient pu être très utiles pour soigner certaines maladies ou pour comprendre certains problèmes scientifiques, par exemple.
Merci pour ce premier sujet à propos de l'écologie. Un enjeu essentiel de notre époque, dans un second temps, Isaline, Naomi, Inès, Lindsay et Lucie ont choisi de parler du foot féminin. Elles ont donc interviewé des joueuses de leur âge, Camille et Jeanne, puis sont allées à la rencontre de deux garçons du collège afin de connaître leurs opinions sur le sujet. Il s'agit de Ryan et Axel. Pour finir, Rudy Lecorobi, l'entraîneur de l'équipe féminine de l'AAE Scholn, a accepté de répondre à leurs questions.
Quelle est la différence entre le football féminin et le foot masculin ?
Je trouve que masculin, il y a plus de contacts, plus de techniques que féminin.
Et moi, c'est l'inverse. Je trouve que les féminines, elles jouent plus technique et moins sur la violence.
Êtes-vous stressée avant les matchs ?
Ça dépend.
Que ressentez-vous avant les matchs ?
On a envie de gagner.
Ouais, on a envie de mettre des buts, de gagner et d'être fiers de nous.
Pourquoi avez-vous décidé de jouer au football ?
J'ai vu ma sœur jouer et je me suis dit pourquoi pas jouer.
Comment se déroule votre entraînement ?
On commence à courir, après on fait des échauffements, on fait des jeux et à la fin on fait des matchs.
Que pensez-vous du football féminin ?
Moi en vrai je trouve c'est bien. Ils jouent comme les hommes, c'est juste que c'est les femmes et puis ils peuvent pas trop en faire leur métier vu qu'ils sont obligés d'avoir un métier derrière. Mais en vrai, je trouve qu'ils jouent comme les garçons. Et puis, je trouve que c'est bien comment ils jouent, tout ça. C'est propre. Et puis, voilà.
Moi, je trouve que le football féminin, ça reste du foot. Même si c'est peut-être pas forcément le même niveau, ça reste une passion pour les filles. Donc, c'est pareil, ça reste du football.
Y a-t-il une différence entre le football féminin et le football masculin ?
Le football masculin, c'est beaucoup plus suivi que le football féminin. Après, il y a peut-être une différence de niveau, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est juste le football masculin, c'est beaucoup plus suivi, quoi.
Moi, je trouve que les garçons, ils se croient trop plus supérieurs. Du coup, ça rend que tout ça, le football masculin, il reste un peu plus suivi. Mais en vrai, quand je vois la Coupe du Monde, ça, des filles, je suis. Mais en vrai, sinon, c'est juste par rapport à les garçons, il y a beaucoup plus de gens, de personnes... ils sont incroyable à voir, quoi. Il sait bien comment il joue tout ça. Du coup, bah, je trouve que c'est mieux de regarder un football masculin, même si Luffy sait bien.
Dans le club où vous jouez, y a-t-il une équipe de foot féminin?
Bah, dans le club où on joue là, Sean, il y a U13 féminine et senior féminine. Donc moi, par exemple, si je passe devant une équipe de foot où c'est des filles qui jouent, bah, je regarderai parce que ça reste du foot, quoi, c'est bien.
Moi, j'aime bien parce que l'entraîneur des filles, bah, il me veut de au moins son équipe. Du coup, bah, j'aime bien. Je joue de au moins avec les féminines au goal. Et puis, bah, j'aime bien. Je trouve que c'est beau tout ça à voir. Parce que la dernière fois, bah, on était avec les garçons à un tournoi. Puis bah, les filles ont fini devant les garçons. Ils ont fini en demi-finale et puis on a fini troisième avec les filles. Donc c'est pas, je trouve que les filles jouent mieux, les filles U13, ils jouent mieux que les garçons U13, je trouve.
Est-ce que ça vous arrive de jouer au foot avec les filles?
Ça m'est déjà arrivé de jouer au foot dans l'équipe des filles pour des paniers ou quoi. Moi sinon on joue pas, mais par exemple pour s'amuser ou quoi, on s'en fout de jouer avec une fille ou un garçon.
Bah moi c'est oui pour avec les filles j'ai déjà joué. Et puis, bah, au moins, je peux jouer avec ma sœur, tout ça. Mais bon, c'est rare.
Pourquoi préférez-vous entraîner les filles que les garçons?
Alors, j'ai pas de formation pour entraîner les filles plus que les garçons, en fait. Genre, de base, ça fait depuis l'âge de 16 ans, j'entraîne. Donc, j'ai entraîné les garçons. Et après, j'ai ma fille, Suzanne.
Oui.
Et qui a commencé à jouer au football. Et de là, bah, je me suis impliqué dans le foot féminin à partir de ce moment-là.
Ok. Est-ce que les filles gagnent plus que les garçons pour vous?
Gagnent plus quand ils jouent l'un contre l'autre ou...
Oui.
Alors, ça dépend. Ça dépend de l'équipe que tu as, ça dépend des joueuses que tu as. Ils prennent autant de plaisir. Pour moi, c'est... La base du football, quand on est jeune, c'est plus le plaisir que la victoire. Et les filles là-dessus, même si elles n'aiment pas perdre, si elles perdent mais elles ont pris du plaisir, c'est pas grave. Alors après, maintenant, j'ai l'équipe U13 qu'on entraîne, elle bat des garçons. Hein, donc ça leur fait plaisir aussi. Hein.
Ouais, bah, oui, j'en doute. Aimez-vous votre rôle d'entraîneur?
Alors ouais, moi je suis un passionné de football à la base et j'aime, j'essaye de rendre au foot ce qu'il m'a donné, quoi. Moi j'ai pris plein de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et j'espère au moins inculquer ça à mes joueuses. Mais oui, moi je prends beaucoup de plaisir à entraîner.
D'accord. Et dernière question, vous êtes fier de vos équipes?
Ah ben moi. Toujours. Je suis content quand les gens déjà s'impliquent. À partir du moment où ils ont pris une licence, qu'ils s'impliquent. Et là, pour le coup, les filles s'impliquent. Je ne sais pas s'ils s'impliquent plus que les garçons, mais en tous les cas, elles s'impliquent. Et oui, moi, je suis fier de. On a 13 filles qui jouent en U8-U9. On a 12 filles qui jouent en U13. Et on a une équipe senior aussi. J'entraîne avec Tony. Donc oui, non, on est très fiers de ce qu'on fait et avec qui on le fait.
D'accord, merci.
Pas de problème.
Au revoir. Merci à vous.
Au revoir.
Merci pour ce sujet complet sur le foot féminin. Dans un troisième temps, Evan, Nolan et Timéo ont choisi d'évoquer la longue paume, un sport très important à Sean. Pour cela, ils ont interviewé Amaury Buza, un joueur de longue paume qui est aussi entraîneur.
Nous allons interroger un joueur et un entraîneur. Il va nous raconter sa passion pour la longue pomme. Bonjour Amaury.
Bonjour.
Qui a créé la longue pomme et pourquoi?
La longue pomme, ça a été créé au Moyen-Âge. Donc c'est principalement les rois qui jouaient à ça. Ça s'est fait du Moyen-Âge jusqu'au 18e dans la cour des rois. Donc ça a été créé par les nobles.
À quelle époque a-t-elle été créée?
Donc c'est vers le Moyen-Âge.
Où peut-on pratiquer la longue pomme?
On peut pratiquer la longue pomme dans l'est de la Somme, donc principalement dans le Santerre, et aussi au nord de l'Oise et une société à Paris.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles de la longue pomme?
Alors les règles de la longue pomme, donc c'est un jeu de gain de terrain, c'est-à-dire faire mourir la balle dans le terrain adverse. et gagner de plus de points dans le terrain adverse et être rarement dans notre terrain.
Quel est le type de terrain ?
Ça se joue sur du macadam ou des terrains ancrés ?
Quelle est la récompense d'un tournoi fédéral ?
Donc au tournoi fédéral, donc c'est pour les jeunes. Il y a plusieurs récompenses. La coupe Dumontier pour les Benjamins, la coupe Péchon pour les minimes, la coupe Porcel pour les cadets et la coupe Cassel pour les juniors.
À quoi ressemble la raquette de longue pomme ?
Une raquette de squash. C'est quasiment pareil.
Okay. Comment se déroule un match ?
Donc un match, ça joue en 7 jeux gagnés. Et ça se compte de 15 en 15 par jeu. Et le premier à 7, c'est celui qui remporte le match.
Combien de temps dure un match ?
Le match peut durer 20 minutes comme une heure. Ça n'a pas de, y a pas de temps.
Comment se lisent les points à la longue pomme ?
Donc c'est comme au tennis, 15, 30, 45 et jeu.
Quelles sont les expressions françaises de la longue pomme ?
Qui va à la chasse perd sa place. Donc comme on traverse, on change de terrain, on a pris cette expression de la longue pomme.
Quels sont les derniers gagnants de la Coupe Cassel ?
Biache. Sur l'année 2022, c'est Biache.
Qu'est-ce que le bouclier de Brennus ?
Le bouclier de Brennus, c'est ce qui récompense les champions de France de première catégorie, donc la plus forte catégorie à la longue pomme.
Et qu'est-ce qui est une chasse ?
Une chasse, c'est un objet où l'on pose sur le terrain longue pomme pour délimiter sa partie de terrain, pour qu'il y ait une zone à gagner quand on change de terrain.
Ok, merci Amaury. Au revoir.
De rien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci de nous avoir fait découvrir la longue pomme à travers les témoignages d'Amaury. Dans la quatrième partie de cette émission, Alexia, Laura, Maëly, Alia, Jade et Raja ont décidé de travailler sur le handicap. Pour cela, elles ont interviewé Laura, une élève de 4e qui est malentendante et qui porte des appareils auditifs depuis ses 2 ans et demi. Elles ont ensuite interrogé Johan, qui est le technicien du son de radio Campus Amiens. Ce dernier est paralysé de la main droite depuis sa naissance.
Bonjour Laura, quel est votre handicap ?
Je suis sourde de naissance et j'ai des appareils auditifs.
Et depuis quand avez-vous ce handicap ?
On me l'a diagnostiqué vers mes 2 ans et demi, mais on suppose que je l'ai de mes naissances.
Ok. Est-ce facile à vivre pour vous au quotidien ?
Je m'en préoccupe pas plus que ça.
Ce handicap a-t-il chamboulé votre vie ?
Non, j'en ai pris comme une force pour moi.
Très bien. Suivez-vous un traitement spécial pour votre handicap ?
Non, je dois juste faire quelques rendez-vous pour vérifier mon audition.
Ok. Que pensez-vous du regard des autres ?
Je m'en tape complètement, franchement. Je m'y prête pas forcément attention.
Bah, ça c'est bien. Et connaissez-vous d'autres personnes dans le même cas que vous ?
Non. Des personnes qui ont plusieurs handicaps différents, oui, mais pas dans mon cas.
Bah, merci Laura et à bientôt.
Bonjour Johan, nous sommes la rubrique des 4e Madrid et nous aimerions vous interviewer sur votre handicap.
Bonjour les filles, pas de soucis, je vous écoute.
Quel est votre handicap ?
Alors mon handicap, on va utiliser un terme un peu scientifique. À la base, c'est une paralysie du plexus brachial. Alors c'est un grand mot. En fait, donc, j'ai un handicap au bras gauche où mes nerfs et mes muscles ne sont pas à l'état normal dû à une grossesse qui a été compliquée, enfin à une naissance qui a été compliquée. Et les médecins ont tiré sur mon bras pour me sortir du ventre de ma mère. Et voilà, donc des nerfs et des muscles ont été arrachés sur mon bras. Voilà.
D'accord. Ok. Depuis quand avez-vous ce handicap ?
À la naissance. In utero, dans le ventre de ma maman, j'étais tout à fait normal. Et c'est à la naissance, pendant l'accouchement, que l'accident a eu lieu.
D'accord. Ok. Est-ce facile à vivre pour vous au quotidien ?
Ça n'a pas été facile toute ma vie. Aujourd'hui, je vais avoir presque 45 ans. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, je m'en fous un peu. Mais quand j'étais enfant et adolescent, c'était pas évident puisque je pouvais pas faire les choses normales comme tout le monde. Donc forcément, quand on a ce petit souci à gérer, c'est pas toujours facile. Ne serait-ce que couper un bout de viande, ne serait-ce que conduire une voiture, ne serait-ce que voilà. En fait, j'avais beaucoup de craintes. Mais maintenant, j'en ai plus puisque voilà, je suis papa de deux enfants et que tout va bien et que je fais plein de choses aujourd'hui. Je suis musicien, je conduis, enfin, je fais plein de trucs. Donc c'était vraiment ouais, quand j'étais au collège et encore un petit peu au lycée, forcément, parce qu'on sait que le monde du collège et du lycée sont cruels. Le monde de ces lieux est cruel. Donc voilà. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut le dire avec des mots crus, je m'en tape complètement. Mais voilà, un peu, ouais, quand j'étais plus jeune, c'était moins facile. Ouais.
D'accord. Ce handicap a-t-il chamboulé votre vie ?
Alors, est-ce qu'il a chamboulé ma vie ? Alors oui, je pense que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas ce handicap, puisque j'ai dû depuis l'enfance m'adapter au monde extérieur à cause de mon handicap, trouver des solutions pour pouvoir faire le plus de choses possible comme tout le monde. Donc oui, il m'a chamboulé puisqu'il m'a donné quand même un certain caractère. Caractère que j'ai aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas ce même caractère si je n'étais pas handicapé. Et quand on est handicapé, ben, parfois il faut lutter deux fois plus pour avoir les choses que l'on veut. Que ce soit pour tout, hein, pour les études, pour le boulot, pour plein de choses. Donc oui, ça a chamboulé ma vie, ça m'a mis une carapace, mais en même temps ça m'a poussé à devenir aussi peut-être indépendant plus rapidement. Puis il y aura peut-être plus de force, je pense.
Vous en avez fait une force, quoi.
Ouais, aujourd'hui, je peux le dire, j'en ai fait une force, ouais. Et j'en ai fait une force parce que c'est aussi un métier qui m'a poussé. Avant de travailler à la radio, j'étais éducateur spécialisé. Donc pendant une vingtaine d'années, je me suis occupé de personnes en situation de handicap. Donc je pense que je dis toujours qu'on ne peut pas savoir ce que c'est d'être handicapé si on ne l'est pas. Parfois, des gens me disent que non, mais si, parce que voilà, avec le regard des autres, et quand on est différent, c'est pas pareil. Donc ça m'a aidé aussi à devenir éducateur et à m'occuper de gens comme moi. Et donc oui, ça m'a donné une force, ouais, que j'ai toujours actuellement. Et puis je l'ai toujours, de toute façon, mon handicap, je l'ai toujours avec moi. Donc j'ai toujours quand j'ai des choses à faire et que j'ai besoin de mes deux mains et que je peux pas le faire, donc je lutte tout le temps finalement. Mais je suis heureux. Hein, après, voilà, je pourrais dire, je ne suis pas malheureux, je suis heureux aujourd'hui. Surtout que j'ai deux enfants, donc j'arrive à très bien m'occuper. Donc voilà. Mais ouais, c'est une force, bien sûr. Ouais.
C'est comme un membre de la famille au final.
Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, c'est une très belle remarque, exactement. C'est quelque chose qu'on a du matin dès qu'on se lève jusqu'au soir dès qu'on se couche. Et on vit toute la journée avec. Mais exactement, ouais.
Vous avez persévéré.
Oui, j'ai persévéré. Et je pense que quand on est handicapé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut persévérer si on veut être comme tout le monde, si on veut être considéré comme normal. Après, tout le monde n'a pas la force. J'ai rencontré des gens dans mon métier qui ne l'avaient pas. Alors, il faut leur donner, il faut leur faire comprendre. Et encore, moi, j'ai un handicap que j'estime pas important quand je vois les gens avec qui j'ai travaillé en tant qu'éducateur, des gens en fauteuil, des gens voilà, qui ont encore plus de handicap. Et en plus, voilà, on sait que les lieux ne sont toujours pas adaptés, même si on fait des efforts, c'est toujours pas le cas. Mais bien sûr.
D'accord. Suivez-vous un traitement spécial pour votre handicap ?
Alors non, moi, parce que moi, c'est juste un handicap physique, donc j'ai pas de traitement particulier. En fait, mon handicap n'évoluera pas. Il restera toujours comme ça, j'ai pas de douleur particulière. J'ai même une particularité sur mon handicap, c'est que je ne sens rien. Sur mon bras, je ne sens rien. On peut me piquer, me brûler, je ne sens rien du tout. Ça, c'est aussi un souci qui fait partie de mon handicap, tu vois. Quand j'étais enfant, il m'est souvent arrivé de me brûler sans le sentir. Où je me suis même pas une fois mordu par un chien, j'ai eu 4 points de suture, mais je n'ai rien senti du tout. Donc voilà, mais je n'ai pas de traitement, non.
Le super pouvoir du handicap.
Ouais, c'est ça. C'est un super pouvoir. Ouais. Parfois, je rigole. Je fais des choses impressionnantes devant les gens et sans leur dire je ne sens rien. C'est rigolo. Je me venge.
Que pensez-vous du regard des autres ?
Alors, le regard des autres, c'est la chose la plus difficile. Parce que même encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Parce que moi, quand je vais au supermarché et que je mets des choses dans un sac ou que voilà, je ne me rends pas compte moi, de ce que je fais puisque je le fais de manière naturelle. Bien contre, les autres voient mon handicap quand je fais les choses, puisque je fais tout d'une main. Et oui, les gens me regardent énormément. Alors, je ne pense pas que ça soit pour de mauvaises façons. Tout le monde a ce réflexe de regarder les gens quand il est différent. Mais c'est pesant en fait. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue en fait. Alors, je sais que c'est pas évident. Si vous écoutez cette émission, quand vous voyez quelqu'un qui a un handicap et qui est un peu différent, ne passez pas votre temps à le regarder. Ça le gêne plus qu'autre chose. Aidez-le au pire, mais ou sinon ne faites rien. Mais le regard des autres, ouais, est chiant. Parce que les gens passent leur temps à regarder tout le temps. C'est curieux, les gens. Et ouais, donc ça, ouais, ça c'est relou. Donc laissez les gens tranquilles, ne les regardez pas parce qu'ils sont différents. Et ça marche pour tout, hein, pour la couleur de peau, pour tout, c'est pour plein de choses, mais voilà.
Connaissez-vous d'autres personnes dans le même cas que vous ?
Avec le même handicap que moi, je n'en connais pas. Après, je connais plein d'autres gens avec d'autres handicaps, que ça soit le dos, les jambes, etc. J'en ai pas mal côtoyé, j'en connais aussi, j'en connais quoi. Avec le même que moi, j'ai dû rencontrer peut-être une fois ou deux dans ma vie, mais pas plus que ça, non. Non, non.
Merci Johan, nous en savons plus sur votre handicap. Au revoir.
Ben, au revoir les filles et merci au pour revoir. Cette interview, c'était super sympa. À bientôt.
À bientôt.
Ce sujet sur le handicap est très intéressant. Un grand merci à Laura et Johan pour leur témoignage. Dans l'avant-dernière partie de l'émission, Juliette, Matt, Axel, Ryan et Léo ont choisi comme sujet la pêche. Ils ont donc décidé d'interviewer David Dufresne, ancien champion et membre de la Fédération départementale de pêche. Avec lui, ils ont pu revenir sur les bases de ce sport pratiqué par de nombreux Français.
Du coup, depuis quand pêchez-vous ?
Depuis l'âge de 4 ans. Donc j'ai 48 ans, voilà, et je pêche depuis que je suis tout petit.
Vous avez commencé jeune ?
Voilà.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la pêche ?
Alors, je me suis intéressé à la pêche parce que mon père était pêcheur. J'ai suivi mon père et certains de ses amis. On se retrouvait au bord de l'eau pour des parties de pêche et puis j'y ai pris goût. Et après, j'ai fait des concours de pêche, des compétitions et du coup, j'ai toujours pêché.
Vous avez commencé à pêcher à quoi ?
Au coup, c'est-à-dire au pêcher les gardons, les brèmes, les tanches, hein, ce qu'on appelle la pêche des poissons blancs ou de la friture. C'est ça. Voilà, la pêche au cou.
Êtes-vous dans un club ou pêchez-vous rien que pour le plaisir ?
Alors, je pêche en loisir, comme je disais, il y a 20 000 cartes de pêche dans le département. Et donc, parmi ceux-là, il y a 160 pêcheurs qui ont une licence sportive et qui font des concours en championnat. Et moi, depuis l'âge de 14 ans, je fais des concours et des championnats avec une licence sportive.
Vous avez déjà gagné des concours ?
Oui, quand même, beaucoup. J'ai été 15 fois champion. J'ai gagné les championnats de la Somme, première division Moulinet, championnat de Picardie, première division Moulinet, troisième national, vice-champion de France par équipe. Ouais, j'ai eu de la réussite, on va dire.
C'est déjà pas mal, hein ? comment faites-vous pour pêcher ?
Ah, alors, la pêche, pour moi, ça doit se préparer. Ça doit se préparer, savoir le lieu où on va pêcher, d'accord. À l'heure actuelle, par exemple, on fait du poisson, mais c'est que sur des canaux où le poisson vient se réfugier l'hiver. Après, dans des étangs, parfois on fait du poisson l'hiver sur certains côtés, donc il faut connaître les parcours et il ne faut pas hésiter à parler aux gens qui connaissent et qui pratiquent. Donc ça, c'est une première chose, c'est connaître un peu les parcours suivant le type de pêche que l'on va pratiquer. Et puis après, bah pour moi, la préparation du matériel est importante également. Il faut toujours avoir du matériel, même si c'est basique. Hein. Les sondes, les montures, les élastiques, les hameçons de rechange, et des torchons, les amorces. Il faut avoir un minimum de matériel pour être prêt pour bien pêcher.
D'accord. Quel type de pêche pratiquez-vous ?
Alors, moi, j'aime bien pêcher donc le poisson blanc à la grande canne, d'accord ? Donc, nous, en concours, on a des cannes de 13 mètres, donc tout ce qui est pêche au cou. J'aime bien pêcher à l'anglaise. Je ne sais pas si tu connais cette technique de pêche. Voilà, j'aime bien l'anglaise. La bolognaise, où on pêche en rivière avec un moulinet, qui me plaît beaucoup et qui est maintenant plus facile puisqu'on pêche en rivière, il y a beaucoup de vélos au bord de l'eau et donc on s'embête pas vélo et pêcheur quand on pêche au moulinet. Et puis j'aime bien la pêche en carpodrome, les petites carpes à la canne au cou. y a des carpodromes sur votre secteur. Il y en a au Hamelay, il y en a à Méricourt-sur-Somme. J'aime bien aussi ces pêches-là l'été.
D'accord. Bon, quelles sont les règles de votre type de pêche ?
Il faut savoir que donc là, pour pêcher, il faut avoir une carte de pêche d'un PPMA, d'accord, une association. Il y en a 46 dans le département. Et donc, comme tu le dis, il y a des règles pour pêcher. On n'a pas le droit de pêcher une demi-heure avant, une demi-heure après le coucher du soleil. D'accord ? Donc, une demi-heure avant le lever du soleil, une demi-heure après le coucher du soleil. On n'a pas le droit d'utiliser plus de 4 cannes. Le brochet, il y a certaines périodes pour le pêcher. Donc, le brochet, il ouvre le dernier samedi d'avril. Et puis, il y a des tailles minimales de capture. Le brochet, par exemple, ça va être 60 cm, le centre, 50 cm. Toutes ces règles-là, on les retrouve, bah, nous, on a un site internet à la Fédération, sur pêche80.com. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces règles-là, elles ne sont pas là pour embêter le pêcheur. Elles sont là pour protéger la ressource piscicole. Elles sont là pour protéger les poissons. Et le but, c'est que si on prend ou on prélève un brochet, c'est qu'il ait eu le temps de se reproduire plusieurs fois. D'accord ?
D'accord.
Donc, voilà un petit peu ce qui est règle de pêche. Hein. Après, je vais pas m'étaler sur ces complications-là. Et puis, il faut savoir également que maintenant, bah, tous les pêcheurs remettent pratiquement les poissons à l'eau. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de club. Pour moi, la pêche, c'est quelque chose également qui se passe dans l'esprit. On n'a pas l'air d'être actif. Les gens se disent mais ils s'embêtent ou quoi que ce soit au bord de l'eau, mais en fait ça travaille énormément dans l'esprit. C'est comme un joueur d'échecs, il est assis devant son jeu, mais intérieurement ben, c'est une ébullition et quand on pêche et qu'on réfléchit, parfois c'est une ébullition permanente dans l'esprit.
Pouvez-vous nous présenter le matériel nécessaire ?
Ah, alors je vais te présenter le matériel de base, pas mon matériel parce que c'est quelque chose d'important. Pour commencer, il y a des petites canocous à emmanchement ou télescopique, il faut des lignes. Les lignes, pour moi, elles sont très importantes. On peut avoir une très belle canne à pêche ou une canne à pêche qui coûte cher. Si on n'a pas la ligne adéquate, ça ne va pas. La ligne, c'est ce qui te permet de capturer le poisson, c'est ce que le poisson va voir, et ce qui va bien t'indiquer la touche. Donc, prendre soin à choisir des bons flotteurs, bien les équilibrer, il faut qu'il n'y ait que l'antenne du flotteur qui dépasse et pas le corps, c'est quelque chose d'important, très important. Les éches également, c'est important. Bon, bah, après, si toi tu pêches en carpodrome maintenant, bah, voilà, il y a des choses faciles. La boîte de maïs, c'est un grand classique. Hein. On pêche au maïs, on est sûr de faire du poisson, c'est facile à trouver, il n'y a pas de kilomètres à faire, ce sont des choses intéressantes. Toujours une sonde, plusieurs sondes, des dégorgeoirs également.
Ouais.
Pour enlever l'hameçon, le tablier, pour moi, il est important, des lignes de rechange, des hameçons de rechange. Et puis voilà, là c'est la base. Après, effectivement, il y a des stations de pêche parce qu'il faut s'installer confortablement, il faut toujours une casquette en été parce qu'au bord de l'eau, on peut avoir une insolation. Et même si ça ne fait pas partie du matériel de pêche proprement dit, avoir une casquette et une bouteille d'eau, c'est important.
D'accord.
Après, moi, j'ai énormément de matériel, mais c'est ma passion, et voilà. Mais la base, elle est là pour la pêche au cou, et puis une canne au moulinet à tout faire un petit peu, ça permet parfois ben, de pêcher au ver l'anguille quand elle est ouverte, de mettre un vif au fond ou d'attraper des carpeaux. Donc une canne basique de 2,50 m avec un moulinet, c'est une canne qui permet de faire beaucoup de choses au bord de l'eau également.
D'accord. Selon vous, quels sont les poissons les plus fréquents dans ces eaux ?
Ah bah les gardons.
Les gardons ?
Ah, chez nous, les poissons blancs, ça va être les gardons. On va dire les gardons, les brèmes, les tanfes, les carpes. D'accord ?
D'accord.
En carnassier, on va voir le brochet, la perche et le cendre, donc on voit de moins en moins. Dans les poissons qui apparaissent et qu'on entend énormément parler, qui font parler d'eux, ce sont les silures. Il s'en prend sur tout le secteur, hein, sur la Somme, sur la vallée de la Somme, pas loin de chez toi, il se fait des silures, par exemple. Alors après, on parle d'eux parce qu'ils seront grands, ils mangent parfois des canards, etc. Et puis, si t'es de folle, Nel, c'est pas loin de chez toi, je crois, ou c'est pas loin de ton collège.
C'est à côté.
Juste à côté. On a le canal grand gabarit, il y a un petit poisson qui vient d'arriver qui s'appelle le gobie.
Ah oui, ça c'est...
Alors, c'est un poisson, voilà, qui est une espèce qui va se développer énormément par rapport aux autres espèces présentes. Il vient des pays de l'Est. Il est arrivé par les canaux de navigation et il se développe énormément, pas loin de chez toi. Et là, il est omniprésent et parfois, on peut faire 200 poissons, ça va être que 200 gobies. Voilà, donc, mais le poisson le plus pêché chez nous, les deux espèces, les gens qui pêchent au blanc, ça va être les gardons. Et puis le carnassier, ça va être le brochet. Et puis après, on n'a pas parlé d'une chose également. Là, on voit bien que tu te rapproches de la vallée de la Somme. On a également des petites rivières où il se fait des truites dans le département.
Ah bon ?
La pêche à la truite, c'est quelque chose également qui est important. En fait, les affluents de la Somme, donc sur ton secteur, on n'en a pas, vous n'en avez pas sur le plateau, mais la selle qui passe à Conty, par exemple, l'Oti, la Brelle, la Nièvre, sont des belles rivières où il y a des truites fario sauvages et où il y a des truites qui se reproduisent.
C'est comme les poissons-chats, c'est une espèce qui se reproduit.
Alors, quand les poissons-chats, ça c'est autre chose. Hein. Tout à l'heure, on parlait du gobie, qui n'a pas encore le même statut juridique que le poisson-chat. Le poisson-chat, il est classé espèce susceptible de créer des déséquilibres biologiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le remettre à l'eau, on n'a pas le droit de le transporter, parce qu'on pourrait aller le mettre dans un étang. Il va se développer énormément et il va porter atteinte aux espèces présentes. Ce n'est pas un poisson originaire de France. Il y a deux poissons qui ont ce statut-là à l'heure actuelle. C'est le poisson-chat et la perche-soleil.
Ah oui, ça mange un peu de tout. Les perches-soleil, ça va plutôt aller manger les œufs, tout ça.
Ah, c'est beau. C'est un beau poisson, mais qui peut se développer. Voilà. Alors, mais il faut expliquer s'il y a des gens qui te voient jeter un poisson comme ça. Déjà, il faut le tuer, il ne faut pas le laisser souffrir ou sécher. Il faut expliquer pourquoi ce ne sont pas des poissons qu'on retrouve dans nos eaux à l'heure actuelle. Et puis, il faut faire un parallèle avec ce que les gens voient, et peut-être le frelon asiatique qui porte atteinte à nos abeilles. Donc là, c'est des poissons qui portent atteinte aux poissons qu'il y a dans nos eaux normalement.
D'accord.
D'accord.
Voyez-vous des changements à cause des réchauffements climatiques ? Si oui, quelles sont les conséquences ?
Alors, cette année, on a de la chance par rapport à d'autres départements. On a eu des niveaux d'eau bas, mais on n'a eu que deux à sec. Deux rivières asséchées sur la Mée, pour des raisons de niveau d'eau bas, de pompage pour l'irrigation des cultures, ainsi que des fuites, puisque c'est une rivière qui est perchée, il y a eu de l'érosion. Et puis, on a eu de la sec aussi sur les Trois Dons du côté de Montdidier. Donc mais on l'avait déjà constaté auparavant. Par contre, le souci sur nos étangs, parfois, ça a été un élèvement trop intensif de la température, et de là, l'eau, elle contient moins d'oxygène. Et on a des poissons qui sont morts par asphyxie, parfois, parce qu'ils avaient plus d'oxygène dans l'eau à cause de la température.
Ouais, dans les canals, quand j'y vais, je retrouve beaucoup de poissons morts, tout ça. Il y a des brèmes, tout ça, que je retrouve mortes.
Alors, à quelle période de l'année ? Attention.
Là, il y a à peu près un mois. Donc, ouais, je pense que
c'est... Sur quel bief ? Quand tu dis beaucoup, parfois, c'est 5-10 poissons ?
Non, un là, après, tu vas marcher peut-être 100 mètres, tu vas en revoir un, tout ça.
Alors, là, il faut faire... Alors, après, il y a quelque chose qui se passe aussi également dans la nature. C'est comme tout. Il y a de la mortalité naturelle. Un poisson, il est comme un homme... il va pas vivre 150 ans. Donc notre poisson parfois est des gros poissons, même des gros brochets. On va en retrouver des morts, mais c'est le phénomène naturel. Ça c'est la première chose. Après, on peut avoir des poissons qui ont été aussi abîmés par un prédateur. Un poisson qui a été loupé par un brochet ou un silure, il est abîmé et puis il peut mourir. On peut avoir aussi des oiseaux piscivores. C'est quoi les oiseaux piscivores ? On a les cormorans, on a des grès bupés. Ces oiseaux-là, ils plongent sous l'eau pour aller, ils se nourrissent exclusivement de poissons. Donc parfois, ils loupent un poisson, ils l'abîment et le poisson peut mourir. Le martin pêcheur, on ne va pas voir ce qu'il abîme parce qu'il s'attaque à des tout petits poissons. Et puis, parfois, on a les hérons aussi qui sont là, qui vont donner un coup de bec au poisson, mais le poisson va quand même se sauver, il peut mourir. Et puis, on a parfois des pêcheurs qui mettent des poissons en bourriche. Ils vont rejeter le poisson. Ils ont fait 40 gardons. Il n'y en a que 2 ou 3 de morts. Et nous, on ne le sait pas et on va voir ces 2 ou 3 poissons-là.
Et pouvez-nous vous parler de la carte de pêche ?
Alors, la carte de pêche. Alors, il existe plusieurs cartes de pêche. Toi, ça va être à quel âge, toi ?
J'ai
13 ans. Donc toi, tu as la carte de pêche mineure.
Ouais, 25 euros, il me semble.
Voilà, qui est valable de 12 à 18 ans. S'il y a des jeunes qui nous écoutent qui sont plus jeunes, il y a une carte de pêche découverte moins de 12 ans. D'accord ? Donc là, tu parlais de coûts. Donc la découverte moins de 12 ans, elle va être à 7 euros l'année en 2023. Il y a la carte mineure. Il y a la carte majeure. Il y a une carte offre découverte femme, et puis il y a une carte interfédérale pour les majeurs comme moi qui veulent pêcher dans plein d'endroits. Elle coûte un peu plus cher, mais ça permet d'avoir beaucoup de sites de pêche. Et puis pour les cartes temporaires, vous avez la carte journalière. D'accord ? Exemple, un jour, si ton père n'est pas pêcheur, il veut quand même t'accompagner pêcher, il peut prendre une carte journalière. Il existe la carte hebdomadaire, c'est-à-dire la semaine pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps et puis qui prennent le temps de pêcher que pendant les vacances. Et voilà toutes les cartes de pêche qu'on va retrouver à des tarifs différents. Il y a un site internet maintenant, donc toutes les cartes se vendent par internet également. Donc c'est cartesdepêche.fr. Et puis toutes les informations, on les retrouve sur notre site internet à la fédération, à pêche80.com.
D'accord.
Et tu as bien parlé, puisque tu parles de carte de pêche. Et donc, en fait, c'est bien l'adhésion à une association. Les anciens, parfois, ils parlent de permis de pêche. Tu pourras les reprendre en disant « C'est faux, monsieur, vous n'avez pas un permis de pêche. Vous ne passez pas d'examen. » Ce que vous appelez le permis de pêche, c'est l'adhésion à une association qui vous permet d'avoir les cotisations, les droits de pêche et de pêcher.
D'accord.
Ça marche ?
Ça marche.
Merci à vous de vous intéresser à un loisir qui est le deuxième en France derrière le football. Et bonne continuation à vous.
D'accord,
merci. Merci. À vous aussi.
Au revoir.
Merci pour toutes ces informations sur la pêche. Pour finir, la rubrique des 4e Madrid, Romain et Lomic ont choisi de travailler sur les métiers de journaliste. Pour cela, ils ont interviewé Rémi Upravan, qui est journaliste et animateur de Radio Campus Amiens.
Bonjour, nous sommes des élèves de 4e du collège de Chaulnes et nous allons vous poser des questions, vous qui êtes journaliste radio. Nous sommes en compagnie de Rémi.
Bonjour Rémi, votre métier s'appelle-t-il radiologue ?
Alors, malheureusement, mon métier ne s'appelle pas radiologue, parce qu'un radiologue, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui fait des radios. Et moi, mon métier, c'est journaliste ou alors animateur radio. En fait, ça veut dire que je suis à la radio, un studio de radio, et je m'occupe de créer des émissions et de les animer.
Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Dans mon métier, ce que j'aime, c'est écrire des interviews. C'est faire des interviews, c'est rencontrer des personnes, c'est découvrir des nouveaux sujets. Tous les jours, j'apprends des choses et ça, c'est super chouette. Et j'ai aussi la chance de faire des ateliers, des formations avec les jeunes comme vous. Et aussi, ce qui est cool à Radio Campus, c'est que y a beaucoup de musique et j'adore la musique. Donc toute la journée, j'ai de la musique dans les oreilles.
Combien de personnes avez-vous interviewées ?
Eh bah écoute, ça fait bien 3 mois que je travaille à Radio Campus. À raison de 5 interviews par semaine, tu fais le calcul, on est sur déjà une bonne cinquantaine de personnes interviewées.
Quelles sont les personnes les plus connues que vous avez interviewées ?
Bah, c'est compliqué à dire. Par exemple, j'ai interviewé un artiste amiénois qui s'appelle Vadim Vernet, qui est plutôt connu dans le milieu de la musique. Mais par exemple, j'ai eu l'occasion d'interviewer le directeur de la Lune des Pirates, le directeur de la Maison de la Culture d'Amiens, et c'est des gens quand même, mine de rien, assez importants. Après, on a aussi la maire d'Amiens qui est venue nous voir. Donc voilà, c'est pas de stars non plus, hein, mais quand même des personnalités du milieu culturel à Amiens assez importantes.
Quelle est la personne que vous avez trouvée la plus intéressante ?
La personne la plus intéressante, moi j'ai beaucoup aimé mon interview avec Vadim, elle était très enrichissante. Après, j'adore le milieu de la musique, alors c'est toujours cool de recevoir des gens qui viennent des salles de spectacle, des artistes. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Lado, et c'était une de mes toutes premières interviews, et c'était un super moment, super enrichissant. En plus, il avait joué un morceau en live. Voilà, je pense que c'est... Après, il y a aussi les associations de cinéma, beaucoup qui viennent nous voir et qui ont des projets super intéressants.
Combien de temps en moyenne prenez-vous pour réaliser une interview ?
Alors, une interview à Radio Campus Amiens, ça dure en général 20 minutes, mais après, il faut la préparer, etc. Donc moi, je vais mettre peut-être 30-40 minutes pour faire mes recherches, 30-40 minutes pour écrire l'interview, et après, le temps de recevoir la personne, de fixer le rendez-vous, pareil, c'est une 30-40 minutes, donc on en a bien pour 2h, 2h30 par interview, sachant qu'après, il faut faire aussi la communication, ça prend un petit peu de temps de tout rédiger.
Comment avez-vous trouvé le nom de votre émission ?
Eh ben, c'est pas moi qui l'ai trouvé, le nom de cette émission, mais j'imagine que ça s'appelle Info Club Sandwich, parce que en fait, on fait de l'information et on le fait à midi, donc à l'heure du sandwich. Et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Info Club Sandwich pour l'émission quotidienne. Et sinon, l'émission que moi j'ai à côté qui s'appelle Mad, donc qui veut dire fou en anglais, en fait, c'est parce que ça, c'est la contraction, c'est les initiales de Maladisque, qui est le nom du magasin où je vais faire l'interview où je vais faire découvrir les CD aux auditeurs. Et Mad, le côté fou, ça correspondait bien aussi aux personnalités des gens qui gèrent la Maladisque. Voilà.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
Merci Rémi, ce sujet sur le métier de journaliste clôture l'émission. C'est donc déjà la fin de la radio de la rubrique des Crates Madrid, pardon. L'émission qui donne la parole aux collégiens et collégiennes de Chaune sur Radio Campus Amiens. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. À bientôt.